parce que après la pause, on va discuter avec Roger Ferland du volet policier. On a Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine avec nous. Luc, comment vas-tu?
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs aussi.
Luc, avant justement de parler de la situation en tant que telle, j'aimerais qu'on fasse justement la mise en contexte de la raison qui explique la présence de la police de l'immigration à Minneapolis. Et ce que j'en comprends, c'est parce qu'il y a une large communauté somalienne là-bas et que malheureusement, il y a des gens de cette communauté-là qui ont été arrêtés pour fraude.
Voilà, puis ça vient rejoindre un des thèmes pour lesquels Donald Trump est populaire, ou à tout le moins, en tout cas, était populaire quand on regarde l'historique des sondages. Pendant la campagne électorale, il a parlé d'économie parce que, bien sûr, on critiquait Joe Biden sur l'économie, mais il a beaucoup parlé de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale. Donc, on l'a vu depuis le début de son administration. Pendant une année maintenant, il a bougé très, très rapidement dans beaucoup de dossiers et il n'a pas hésité à déployer soit ce qu'on a vu à Minneapolis, malheureusement, hier, soit ICE, la police frontalière, ou encore, dans certains cas, la Garde nationale. Ce qui est important de préciser en partant, c'est qu'il fédéralise des dossiers qui relèvent, dans plusieurs cas, de chacun des États. Donc, on l'a vu, il est toujours soit en contravention avec la loi et la Constitution, soit à la limite des pouvoirs présidentiels. Dans ce cas-ci, on a le droit d'envoyer les agents de la police frontalière. Mais ce qui m'a étonné, moi, avant même qu'on ait le triste incident d'hier, c'est qu'il n'y a pas de coordination entre l'administration Trump, entre la police frontalière et les élus de l'État. On a entendu Tim Walz hier, puis le maire Free, auquel on vient de faire référence. Il n'y a pas de coordination. Donc, il y a déjà des services de police, il y a la Garde nationale au Minnesota. M. Walz, le gouverneur, a référé à la Garde nationale hier. C'est une façon d'intervenir qui peut entraîner, malheureusement, ce genre de situation-là. S'il n'y a pas de coordination, s'il n'y a pas de collaboration, si on ne s'entend pas sur les procédures, la formation, ça peut être des formations différentes, ça peut dégénérer sur le terrain.
Ouais, puis donc, malheureusement, ces interventions-là, faites par l'administration Trump, se font régulièrement dans des États et des villes qui sont gérées par des démocrates. Tu parles de Tim Walz, mais on s'en rappelle.
Voilà.
C'était le candidat à la vice-présidence de Kamala Harris.
Voilà. Et il y a effectivement des immigrants sur le terrain. Il y a eu un gros scandale, d'ailleurs, de détournement de fonds, de fraude au Minnesota, ce à quoi tu référais. Mais on a tendance à oublier rapidement dans ces dossiers-là parce que les gens réagissent à c'est très polarisé. On est pour, on est contre. Il y a personne qui est pour la fraude. Il y a personne qui est pour des immigrants qui abusent d'un système. Mais il y a des procédures, il y a des façons de faire. Je vais laisser l'expert qui suit après vous parler de ce qu'on a tous vu. Mais moi, j'étais étonné qu'on n'évite pas l'escalade avec une femme qui ne faisait pas partie de ces immigrants. Donc, je le laisserai aller plus loin sur les procédures, mais c'est parce que j'ai beaucoup discuté avec des formateurs policiers ici, parce que malheureusement, en couvrant l'actualité américaine, c'est pas la première fois qu'il y a des comportements des services de police ou des agents fédéraux qui, en tout cas, ressemblent pas à ce que nous, on enseigne ici à nos policiers quand on les forme. Donc, le dossier, il est éminemment politique et je veux tout de suite vous emmener, Pascal et toi, vers les déclarations du président et de la secrétaire à la sécurité intérieure tout de suite après. On n'a pas encore, d'ailleurs, je le ferai pas, puis je serais très étonné que quelqu'un le fasse. Est-ce que le policier était justifié de tirer l'enquête n'était même pas commencé. Ce qui nous manque, c'est le avant. Il y a les images qu'on a tous vues, mais une vidéo ou un bout de vidéo, c'est souvent très incomplet. On n'a pas d'informations. Mais moi, j'étais très étonné d'entendre, par exemple, la secrétaire à la sécurité intérieure dire « c'est un acte de terrorisme domestique ». Écoute, je l'ai suivi hier pratiquement en direct tout le temps. Là, je me disais, comment elle peut conclure à ça à partir de l'absence d'informations qu'on a? Et plus on en apprend sur cette citoyenne de Minneapolis, moins on comprend. Cette femme-là, qu'elle a été prise de panique ou pas, elle n'a pas obéi à la police. Mais est-ce que se détourner de la police avec son véhicule, ça justifie qu'on la tire à bout portant? On verra la suite. mais qu'on parle de terrorisme intérieur, il n'y a rien dans le parcours de cette femme-là qui nous montre une terroriste, une personne radicalisée, quelqu'un qui voulait enlever la vie des agents fédéraux. Mais comme beaucoup de gens, sur place, elle en a contre la présence de la police frontalière, qui, en passant, n'est pas controversée que depuis hier, on a accéléré le recrutement des agents de la police frontalière. On les a attirés avec énormément d'argent, avec des primes de 50 000 $ si on entrait dans la police frontalière. Et on a dit, ben, ces gens-là, parfois, ont des origines qui sont douteuses, des profils qui sont douteux et une formation qui est déficiente. Et en plus, on l'envoie dans des villes démocrates où on a recours à la force régulièrement. Et ça n'a rien à voir avec la mort de cette femme-là. On a nombre de vidéos, d'informations et de reportages qui nous les montrent agir de façon très, très musclée. Et sans jouer le jeu politique, je ne pouvais que comprendre ce que le maire Frey et le gouverneur Walz ont dit hier quand ils ont dit « Vous venez ici semer le chaos, finalement. On n'a pas besoin de vous. Vous en avez assez fait. » Et en passant, tout ce qu'il y a de criminalité pour la ville de Minneapolis dans les 5 dernières années, c'est à la baisse. Tout crime ou toute infraction confondue, il y a une baisse. Et pour ajouter au contexte politique, puis je vous laisse relancer ou conclure après, pour ajouter au contexte politique, on est à moins de 2 kilomètres hier de l'endroit où un policier a assassiné George Floyd. Ce sont les mêmes personnes qui ont eu en découdre avec les forces d'autorité, qui ont vu de la brutalité policière. Cette fois-là, ce n'était pas les agents fédéraux. Mais le maire disait hier, on a retenu des leçons de cet événement-là. On a retravaillé avec la communauté, avec nos policiers. Mais disons qu'on sévit ou on frappe dans une communauté qui a déjà, dans sa mémoire très fraîche, des incidents qui ont conduit à la mort inutile d'un individu. George Floyd, on l'avait dit à l'époque, c'était pas un ange. Est-ce que ça méritait qu'on le tue comme ça en public? Il a été jugé, le policier, donc Derek Chauvin. Alors, on sait que c'était pas correct. Là. On sait qu'on a abusé et qu'on n'a pas respecté la formation. Mais tout ça s'ajoute à un contexte politique qui est explosif. Et moi, je suis pas, malheureusement, étonné que ça survienne. Et j'ai peur que ça se répète d'ici aux élections de mi-mandat. Donc, quand on force la présence des agents fédéraux du gouvernement fédéral, que c'est une administration républicaine qui ne le fait que dans des villes ou des États dirigés par des démocrates, en bon québécois, c'est courir après le trou.
Oui, puis je me demande si c'est... Parce qu'on analyse toujours ça, là, on a un petit peu de data, disons-le comme ça, depuis l'élection de Donald Trump. Mais est-ce que cette division-là sociétale est plus marquée, remarquée depuis que Donald Trump est au pouvoir? Parce que j'ai l'impression que des fois, ces discours vont alimenter cette division-là. Autant que ça affaiblit le débat public, autant que ça alimente la division sociale, ça nuit aussi aux immigrants, que je vais mettre entre parenthèses, correct, des immigrants qui respectent les lois.
Les immigrants légaux qui ont respecté les procédures, voilà.
Où ça se passe très bien, où ils contribuent même à l'économie des États-Unis. Il ne faudrait pas un discours plus responsable, parfois, pour ne pas brouiller la réalité. Puis justement, on voit des choses très catégorisées, hein, très rangées à gauche ou à droite, puis qu'il y a une grosse fraction entre les deux, puis que les États-Unis sont en train de s'entre-déchirer.
Donald Trump n'a rien inventé des problèmes qu'il y a aux États-Unis. Moi, ce que je déplore dans cette situation-là, de la part du personnage le plus en vue dans la nation américaine, c'est que non seulement il n'a pas un discours qui rassemble, rappelle-toi, hein, dans tout Pascal, dans ses vœux pour le Thanksgiving, dans ses vœux de Noël, du Nouvel An, il finit toujours par cracher sur ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ouais. Donc, déjà ça, puis pourtant, c'est des périodes de réjouissance. Là, ça devrait être la plupart du temps, le Nouvel An, Noël, le Thanksgiving, l'Action de grâce, des moments rassembleurs, des moments où on dit « parlons pas de politique, là. Amusons-nous, hein, laissons sortir la vapeur, regardons un bon match de football ». Mais l'autre chose, il y a pire. Non seulement dans son discours, il n'est pas rassembleur, sciemment il exploite la division. Sciemment, il insulte ses adversaires, les humilie. Et je reviens à ça, la symptomatique de tout ce que je viens de raconter, de conclure avant même qu'on ait toute l'information que cette femme-là est une terroriste intérieure. Je ne sais pas si les gens réalisent bien la portée des mots. C'est comme la pire étiquette. Là. On compare ça finalement à des événements historiques aux États-Unis qui ont été hyper dramatiques. Ouais. Allez voir les images, puis dites-moi juste ça, si vous avez l'impression que cette femme-là, c'est une terroriste.
Quelqu'un pas vraiment. De radicalisé qui... Pas ben, vraiment. Écoute... Et je pense à son enfant également, son garçon, parce que le mari et le père de l'enfant est décédé malheureusement en 2023. Donc, cet enfant-là de 6 ans se retrouve orphelin aujourd'hui raison justement de cette intervention-là.
Essayez d'imaginer maintenant le mandat du maire de la ville, du gouverneur de l'État, dire aux gens de Minneapolis, on comprend que vous soyez en colère, mais restez calme. On fait tout pour faire grimper la tension et malheureusement, puis là c'est très subjectif, j'ai l'impression qu'on espère même des débordements pour donner plus de pouvoir aux policiers encore. C'est difficile de contenir sa colère pour les gens de Minneapolis dans une situation comme celle à laquelle on a assisté hier, malheureusement.
À présent, ils ont quand même réussi à le faire et tu l'as dit, c'est une communauté qui est très marquée par le Black Lives Matter qui a suivi justement l'assassinat de George Floyd. Est-ce que tu crois qu'on va réussir justement, autant du côté de Tim Walz que du côté de M. Free, le maire de la ville de Minneapolis, à garder la population avec des manifestations pacifiques pour ne pas justement donner raison à l'administration Trump?
Je l'espère et écoute, j'ai pas de boule de cristal. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on a évité le pire. Ce que je crains, c'est la répétition de situations comme celle-là et qu'on finisse par l'échapper. À la force de piquer, à la force de provoquer, à force de faire peur aux gens, il y a des gens à Minneapolis qui avaient peur. La femme qui est la voisine de la femme qui est décédée disait d'ailleurs, je suis sortie parce que j'ai entendu des bruits qui nous rappellent que ICE c'est chez nous. Donc, et elle agissait par méfiance, par habitude de surveillance et de provocation. Et ce sont des agents fédéraux. Ce sont même pas des gens de l'endroit. Ce n'est pas des gens de la communauté qui interviennent. Donc, écoute, je souhaite qu'on y arrive. Je déplore qu'on nourrisse, par contre, cette crainte-là. Et j'ai peur qu'on l'échappe ailleurs. Et à un moment donné, ce serait profondément humain, à force d'être provoqué et d'avoir peur, que d'avoir une réaction qui serait jugée excessive.
Luc, je termine cet entretien avec une question en lien avec d'autres conflits qui impliquent les Américains, c'est-à-dire le Venezuela, le Groenland. Ouais. On a vu la saisie d'un pétrolier russe hier, justement, au large du Venezuela. Cuba qui est mise à mal également par les Américains. On n'entend pas M. Poutine depuis le début de la semaine. C'est bon ou c'est mauvais signe?
C'est la seule réaction qu'on ait eue, c'est officiellement de dénoncer ce que les Américains ont fait. Donc, on a dit, on est contre ça. Et ça, il faut se pincer pour dire, je rêve pas. Là. Vladimir Poutine, qui ne s'est jamais gêné pour franchir ses frontières et s'inviter ailleurs, qui reproche aux Américains de défier le droit international. Mais c'est le monde dans lequel on évolue maintenant, c'est-à-dire que on ne se limite maintenant qu'à la force brute. On est en train d'assister à la disparition de la diplomatie, d'une forme de politesse entre les États pour animer une rivalité. Donc, moi, je pense qu'il y a une grosse partie de fake, il y a une grosse partie de faux dans les réactions de la Russie, parce qu'on sait bien, Américains et Russes, où on s'en va. Ah, c'est le message de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, c'est « vous nous en donnez jamais assez ». Ah, quand on a des négociations, là, c'est « je vais prendre ce que je veux », puis il l'a déjà fait avec la Crimée. Donc, il comprend parfaitement dans le jeu d'échange ou de négociation que les Américains, c'est l'Amérique maintenant qui les intéresse ou l'hémisphère ouest. On le voit très bien, là, les pays nommés, c'est la Colombie, c'est Cuba, hein, c'est le Groenland, c'est l'autonomie, là, c'est pas un pays, mais c'est une zone autonome du Danemark. Le Canada, il est revenu à la charge. Malheureusement, on a encore été mentionné là-dedans. Pour nous, ça se fait essentiellement économiquement. Mais dans la réaction de Vladimir Poutine, qui est quelqu'un, si on oublie tout ce qu'il y a d'éthique, de morale et de droit, c'est quelqu'un d'une grande intelligence stratégique. Et chaque parole, chaque geste est pensé. C'est un meneur autoritaire. Il a le luxe du temps dans son cas, même si on dit faut être élu. Hein. On sait que la démocratie russe, si c'était notre démocratie, j'appellerais pas ça une démocratie.
Non, exactement.
Donc, retenez qu'il y a beaucoup de bluff là-dedans et que ça pourrait tout simplement être la réaction officielle, mais pour laisser Donald Trump poursuivre. Donc, on verra ce que ça va donner parce que la Chine aussi. Tu remarqueras que ceux qui ont réagi le plus vigoureusement avec le Venezuela, c'est même pas les pays démocratiques. Ce sont les meneurs autoritaires, ce sont les dirigeants autoritaires. C'est la Chine, c'est l'Iran, c'est la Russie. Donc, ça vous montre dans quel monde chamboulé on vit présentement. que les réactions les plus fortes viennent de régimes autoritaires.
Non, exactement. Luc, la liberté, toujours un plaisir et un bonheur de te parler. Je te souhaite une excellente journée. Puis on va souhaiter le mieux pour le Minnesota, c'est-à-dire des manifestations pacifiques et que la tension diminue quand même assez rapidement.
Une bonne journée à tout le monde. Merci encore.
Merci. Salut. Luc Laliberté, spécialiste et chroniqueur chez nous à Boulevard 102.1 pour ce qui est de la politique américaine. On a fait le côté politique. On va faire le côté policier avec Roger Ferland. Mais avant, il y a de la circulation.
Boulevard Champlain, fin de l'accès vers Henri IV Nord. C'est partiellement entravé en raison d'une panne. Et sinon, il y a une certaine lourdeur sur la capitale, direction ouest, entre Bourg-Royal et Laurentienne.
Merci beaucoup, Max. Je le rappelle à la météo, c'est une superbe belle journée. Moins 1 degré, possibilité d'averse de neige. 2 degrés de la pluie vendredi, 3 degrés ensoleillés pour samedi. Moins 5 avec de la neige pour dimanche. Roger Ferland vient d'entrer en studio, l'ex-enquêteur du SPVQ. Après cette courte pause à Boulevard 102, on s'entretient avec Roger concernant justement cette intervention de la police de l'immigration, le ICE, à Minneapolis où une femme a été tuée. Est-ce que le policier avait raison de tirer sur cette femme-là? Est-ce que les techniques qu'on enseigne ici au Québec ont ramené le policier à utiliser son arme à feu? C'est ce qu'on va discuter avec Roger Ferland après cette courte pause dans Marceau le matin à Boulevard 102.1.
Marceau le matin.